Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
À la une de ce dimanche, le terrible typhon au Japon. Au moins 11 morts. Nous irons à Tokyo dans quelques instants. Les autres titres, Laurence.
La France qui a décidé de suspendre ses exportations d'armes vers la Turquie à la suite de l'offensive lancée contre les Kurdes mercredi par Ankara dans le nord de la Syrie. La politique en France, les Républicains élisent leur nouveau président pour tenter de sortir du marasme. Réponse ce soir à l'issue du vote électronique. Puis un secouriste de la CRS Alpes de Grenoble est mort des suites d'une chute survenue alors qu'il participait au sauvetage d'une cordée de deux alpinistes à la barre des écrins dans les Hautes-Alpes. Vos invités, Eric.
À l'invité, à partir de 8h20, le politologue Pascal Perrineau, spécialiste de la droite, justement à propos de l'élection aujourd'hui du nouveau président du parti Les Républicains.
France Inter. 11 morts, c'est le bilan provisoire du passage du typhon Hagibis qui a frappé le Japon. Il y a par ailleurs d'énormes dégâts. Les soldats japonais s'activent ce dimanche pour porter secours aux habitants ensevelis dans des glissements de terrain ou noyés dans leurs habitations. Jérôme Val, vous êtes en direct de Tokyo où ces tragiques intempéries auront désorganisé la Coupe du monde de rugby.
C'est vrai, Laurence, avec un nouveau match annulé ce dimanche, Namibie-Canada, Kamaishi, dans le nord du pays où Hagibis a causé d'innombrables dégâts dans la nuit, comme dans beaucoup de régions d'ailleurs, dans les préfectures de Chiba, Fukushima ou Iwate, les fleuves sont sortis de leur lit. À Nagano, au nord-ouest de Tokyo, des opérations d'élitreuillage sont toujours en cours pour sauver des habitants réfugiés sur le toit de leur maison. Nagano, où un pont ferroviaire s'est effondré sans faire de blessés. Alors à Tokyo, ce matin, le contraste est saisissant, avec un soleil éclatant, un ciel bleu écarlate. On aperçoit même le mont Fuji, ce qui est très rare depuis la capitale, qui ne garde pas beaucoup les stigmates de ce typhon, ce qui explique que le match Japon-Écosse pourra bien se jouer tout à l'heure comme prévu. Il y a juste quelques rues qui ont des traces de boue. L'un des hôpitaux de la ville a été envahi par les eaux et les patients transportés aux étages supérieurs. Alors, vous avez rappelé le bilan, au moins 11 morts. Il y a aussi 16 disparus, dont les membres d'équipage d'un cargo qui a sombré dans la baie de Tokyo. Le gouvernement a tenu une réunion de crise ce matin. Il a annoncé que 27 000 membres des forces de sécurité étaient déployés pour aider les rescapés.
Jérôme Val, en direct de Tokyo, au Japon. La Finlande, les Pays-Bas, la Norvège et l'Allemagne, c'est maintenant au tour de la France de suspendre ses exportations d'armes vers la Turquie. Les ministères de la Défense et des Affaires étrangères conditionnent la reprise des livraisons à l'arrêt de l'offensive turque dans le nord de la Syrie. Omar Waman.
Actuellement, j'ai plein de membres de ma famille qui sont en prison. Je me dis que dans ces moments-là, on a envie d'être amnésique, de plus savoir d'où on vient, qui on est, parce que ça fait très mal. Sachant que personne ne vient en aide aux Kurdes. La communauté, il y a du sang des Kurdes sur les mains de la communauté internationale parce que les intérêts géopolitiques qui jouent.
Témoignage d'une Kurde parisienne lors des manifestations en soutien aux Kurdes hier en France. Peut-être on entendra tout à l'heure Omar Waman faire ce bilan de la fin des exportations d'armes vers la Turquie, d'armes françaises vers la Turquie. On a Omar Waman, on l'écoute un instant.
C'était l'une des demandes des manifestants qui ont défilé hier à travers la France contre l'intervention des forces turques dans le nord-est de la Syrie. La décision a été prise après 4 jours d'une guerre qui a déjà poussé plus de 100 000 Kurdes sur les routes de l'Exode et fait près de 40 morts parmi les civils. Une autre raison qui a poussé Paris à suspendre ses exportations d'armes vers la Turquie, c'est l'apparition des premières vidéos d'exécution sommaire par des rebelles pro-turcs, des supplétifs syriens qui participent à l'offensive. Pour la seule journée de samedi, 8 civils ont été exécutés dans la ville de Tal Abyad. Cette suspension de matériel de guerre est plus que symbolique selon le ministère des Armées. Depuis 2009, la France a vendu à la Turquie pour plus de 460 millions d'euros d'armement. Mais cela ne devrait pas suffire à faire plier Ankara. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré hier que les embargos sur les armes ne faisaient que renforcer la détermination de la Turquie.
Il est 7h04, les secours en montagne sont sous le choc.
Un secouriste de la CRS Alpes de Grenoble a trouvé la mort hier lors d'une intervention dans le massif des Écrins en Isère. Il était parti sur la barre des Écrins à 4100 mètres d'altitude pour venir en aide à une cordée de deux alpinistes dont l'un souffrait du mal des montagnes. Âgé de 46 ans, il était le père de deux enfants. Il travaillait au sein de l'unité depuis une vingtaine d'années. Le major Laurent Soulier, commandeur de la CRS Alpes de Grenoble.
Nous avons été amenés à intervenir dans le massif de l'Oisans sur le sommet de la barre des Écrins. Intervention au profit d'une cordée de deux alpinistes dont l'un des membres présentait des signes de mal aigu des montagnes. L'intervention est partie du département de l'Isère, puisque nos collègues de Briançon, leur hélicoptère était disponible pour quelque temps. C'est au moment de la prise en charge de la deuxième victime par hélitreuillage que notre collègue a dévissé. La prise en charge a été très rapidement effectuée. Dans un premier temps, son équipier et le médecin présent, puis par un renfort de nos collègues de Briançon. Notre collègue a pu être acheminé par hélicoptère jusqu'à l'hôpital où il est décédé quelques temps plus tard.
Après 11 jours d'une violente crise sociale en Équateur, place au dialogue entre le gouvernement du président Moreno et les indigènes des Andes, comme de l'Amazonie. Des milliers d'entre eux sont arrivés à Quito. Ils campent depuis plusieurs jours pour exiger le retrait des réformes et surtout la mesure la plus controversée, la suppression des subventions au carburant qui fait grimper de plus de 100% les prix à la pompe.
Les quelques 130 000 adhérents du Parti Les Républicains sont appelés ce week-end à choisir leur nouveau président.
Et ce nouveau président aura la lourde tâche de rassembler un parti en crise à l'approche des municipales, de trouver un candidat à la droite pour 2022, sachant que le vainqueur ne sera pas le candidat LR à la présidentielle. Le successeur de Laurent Wauquiez, qui a démissionné en juin, devra renoncer à cette ambition pour ne pas relancer la machine à perdre. La participation à ce vote électronique dira quelque chose de l'état de la vitalité de la droite française après un cycle de défaites électorales cinglantes, Simon Le Baron.
Pour entamer la reconstruction, il faut que le scrutin soit réussi. Et pour qu'il soit réussi, mieux vaut que la participation ne soit pas ridicule. Le parti revendique 130 000 adhérents à jour de cotisation. Certains cadres s'autorisent à rêver en évoquant le chiffre de 50 000 votants. Beaucoup plus prudent, le candidat Julien Aubert table plutôt sur 35 000. En 2017, lors de l'élection de Laurent Wauquiez, 100 000 militants avaient participé. Le chiffre risque donc d'être lu comme une preuve concrète du marasme de LR et de la désillusion de ses forces vives. Deuxième en jeu, les quadras Aubert et Larrivé contraindront-ils Christian Jacob à un improbable second tour? Si le patron des députés LR apparaît depuis le début comme l'immense favori, une élection dans la douleur entamerait déjà sérieusement sa légitimité. Là encore, ce serait un mauvais signal, mais une figure de l'ex-UMP relativise. En matière de calamité, on aura vu pire.
Voilà, le Parti Républicain qui se cherche un leader. Un leader, c'est aussi en quelque sorte que cherche le village de Jablines en Seine-et-Marne.
Village cherche son futur maire, le maire actuel de Jablines. 700 habitants ne trouvent pas de successeur. Il vient de publier une petite annonce dans le bulletin municipal. Après 36 ans de bons et loyaux services au service de sa commune, Jean-Michel Barra ne veut pas d'un nouveau mandat. Aucun de ses adjoints, ne veut se présenter. Et il les comprend. Jean-Michel Barra au micro de Thibault Lefebvre.
La fonction de maire, c'est fini, c'est dépassé. Ça, c'est... Je fatigue un petit peu d'une part, et puis d'autre part, ça devient tellement compliqué. Les habitants sont devenus de plus en plus exigeants. Donc on en est à gérer des conflits de voisinage, des trucs complètement idiots, des branches qui dépassent chez le voisin. On passe notre temps à ça. Ce matin, j'étais réveillé à 8h puisqu'une branche de rosier dépassait chez le voisin. Après, ça a été le disjoncteur de l'école qui avait disjoncté. Et franchement, on a envie de dire, mais le disjoncteur, vous le renclenchez, puis c'est tout. Tous les habitants ont mon téléphone portable, c'est certain, mais il y a toujours un problème. Vous avez l'intercommunalité qui, d'un côté, nous a facilité les choses puisqu'ils prennent en charge beaucoup de compétences, mais d'un autre côté, nous amène beaucoup de travail. En semaine, il y a des réunions, donc ça multiplie, si vous voulez, le travail par rapport à celui de la mairie. Le maire fait tout dans la commune. Il n'y a aucune reconnaissance de tout ça et c'est vraiment de plus en plus lourd.
L'homme arrêté à l'aéroport de Glasgow a été libéré hier soir. Ce retraité des Yvelines n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Les certitudes initiales sur les empreintes digitales se sont progressivement estompées hier matin. Puis des tests ADN ont permis de déterminer qu'il ne s'agissait pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Nous reparlons de cet emballement policier puis médiatique dans le journal de 7h30.
C'était le journal de Laurence Thomas.